Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Et oui, je ne suis pas toute seule. Je suis en compagnie de Jeannot et de Nina.
Salut.
Salut. Et pour cette toute première émission de l'année 2026, on va commencer par vous dire bonne année quoi.
Bonne année à vous tous et
meilleur
toutes.
Vœu.
Mais oui, meilleurs vœux. Aujourd'hui, il y a du soleil à Rennes. Nous sommes en temps d'enregistrer ici à Canal B. Donc déjà, ça démarre bien, non?
Ça démarre très bien.
Et on va parler des livres. Ah, mieux qu'hier. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une pluie battante hier. Nous allons parler des livres et vous avez donc choisi de démarrer cette année avec des ouvrages qui vous tiennent à cœur. Un petit tour de table pour savoir de quoi va-t-on parler, Nina, par exemple.
Moi, je vais parler d'un livre qui s'appelle Casimir Fidèle, qui a été écrit par une autrice qui s'appelle Julie Duprat.
Ok, on va découvrir tout à l'heure. Et toi, Jeannot ?
Moi, je vais parler d'un écrivain qui s'appelle Joséphine Cardona, qui a écrit Stella et l'Amérique. C'est un road trip à travers 5 ou 6 États d'Amérique, des aventures incroyables.
Improbables. Nous allons découvrir ça dans quelques instants. Pour ma part, je veux vous parler de cette BD absolument sublime qui est parue à la rentrée dernière, au mois de septembre, chez Casterman. C'est une BD, l'autrice s'appelle Mansoureh Kamari. Et elle est iranienne. Ça s'appelle « Ces lignes qui tracent mon corps ». Et si vous me permettez, je vais tout chose, quoi.
Allez.
Bah ouais, parce que franchement, c'est la lecture que je fais en ce mois de janvier et que je suis absolument bouleversée par cette autobiographie de l'autrice. Cette autrice qui vit à Paris depuis quelques années, elle est aussi réalisatrice de films d'animation. Ces lignes qui tracent mon corps, paru donc chez Casterman, comme je disais, est d'une classe phénoménale. Déjà, les dessins sont absolument sublimes. Les images sont vraiment poignantes, quoi. Comme l'histoire d'ailleurs, mais vraiment de toute beauté. J'ai bien aimé d'ailleurs un commentaire de Frédéric Poté dans le journal Le Monde au mois de septembre dernier. Il dit que cette BD a la faculté de secouer les tripes et à imprégner les rétines. Et c'est exactement ce que je ressentis, tu vois. Ça t'imprègne, quoi. Et donc, ça démarre dans une séance de modèles vivants. On découvre la dessinatrice qui pose autant que modèle à ce moment-là. Plus tard, on va la voir également dessiner. Et dans cette ambiance calme qui peut nous amener à l'introspection, elle laisse les souvenirs remonter, les souvenirs de son enfance, qui raconte donc son identité et toutes ses blessures qui sont désormais les lignes, peut-être imaginaires, qui tracent son corps. Elle nous met dans la confidence de cette peur très difficile à partager. Elle arrive justement dans cette première bande dessinée de sa carrière, avec beaucoup de délicatesse, dans son mode d'expression, son art, son talent, quoi. Mansoureh Kamari se souvient donc de son enfance et de son adolescence sur la domination masculine avec des interdictions multiples alors que ses frères jouissent de leur liberté en toute quiétude. Elle raconte la possibilité, par exemple, d'une fillette de 9 ans de se marier. Une adolescente d'être exécutée à 15 ans après avoir été violée. Bon, je vais vous lire un extrait du texte qui raconte ce passage, justement, et accompagne les dessins magnifiques, ces pages 72 jusqu'à 77, je crois. « Je n'ai jamais connu mes cousines. Elles sont mortes avant que je vienne au monde. Mais mes sœurs m'ont beaucoup parlé d'elles. Je sais qu'un jour, au début de la Révolution, elles sont sorties pour acheter des livres scolaires, mais elles ne sont pas rentrées à la maison ce soir-là. Les jours suivants, ma tante a été informée de leur exécution par le régime parce qu'on avait trouvé un tract dissident dans leur sac à dos. Ils ont demandé à ma tante de payer les balles qui avaient servi à assassiner ses filles. » Bon, voilà. La BD, comme je disais tout à l'heure, bouleversante, mais elle a aussi cette force de nous rappeler qu'elle est là, qu'elle existe, cette BD. Que l'autrice a réussi à fuir cette barbarie. Qu'elle est réfugiée en France et qu'elle nous partage son histoire. Elle cherche petit à petit à gagner la confiance en elle-même au travers du dessin, au travers de l'art et d'embrasser donc sa place dans le monde. Voilà. Donc, je suis toute bouleversée parce que enfin, voilà, elle est iranienne. On sait ce qui est en train de se passer, ce qui se passe depuis de très nombreuses années. Et je pense que cette BD est un ouvrage à avoir absolument dans sa bibliothèque, de l'acheter, donc de le lire, de le garder, de le partager. Et en parlant de partage, justement, l'autrice, elle sera au Festival Jardin d'hiver au Champ Libre le samedi 7 février dans une rencontre dont la thématique c'est réapproprier son corps au 5e étage de la bibliothèque à partir de 15h30 pour une heure suivie de la séance de dédicace.
Trop bien.
Voilà, voilà. J'ai tout dit. C'est mon coup de cœur pour cette émission.
C'est d'actualité, ce livre.
Vous êtes sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus, c'est la première de cette année et nous sommes très contents d'être ensemble avec Nina et Jean-Noël. Et Jean-Noël va nous parler aujourd'hui d'un livre qu'il raffole et qu'il va partager avec nous. Ça se passe en Amérique, c'est ça?
Oui, c'est en Amérique, dans l'Amérique profonde. C'est un livre qui s'appelle Stella et l'Amérique. C'est un road trip. L'histoire de Stella, qui est pas banale, parce que Stella exerce le plus vieux métier du monde, prostituée, sans vraiment y voir le mal. Elle exerce ça dans une caravane, une petite caravane dans laquelle elle vit. Elle suit un cirque ambulant, où travaille une amie à elle, une dame assez âgée qui est une diseuse de bonne aventure, qui à elle seule vaut le détour de lecture avec son mari qui était dresseur de lions.
Wow.
Et il y a un curé dans le coin qui entend parler de Stella. Et ce curé s'appelle James Brown. Et c'est un ancien Marines, un ancien militaire très bien armé, comme on s'en apercevra dans le livre. Et James Brown, il communique ça à ses supérieurs du clergé, qu'il a découvert une jeune fille qui mériterait d'être béatifiée parce qu'elle fait le bien. Parce que qu'est-ce qui se passe, Stella, quand elle a des rapports amoureux avec des hommes, quand il y a un type qui est handicapé, qui a la polio, il est guéri. Après le rapport, il est guéri. Les gens qui ont un psoriasis sont guéris. Les aveugles se mettent à voir.
Ah bah dis donc, c'est l'amour de voilà. Service, quoi.
Alors le curé dit, il faudrait qu'on en fasse une sainte, il faudrait la béatifier. Oui. Ça serait. Par contre, l'information remonte jusqu'au Vatican et le pape et ses ces cardinaux sont pas vraiment d'accord. Ils sont un peu bandits au Vatican là, et du coup ils prennent une femme qui est recruteuse de tueurs à gages, qui elle aussi est un personnage terrible. Et elle recrute deux tueurs qui sont absolument sans pitié, très cruels, qui sont un peu adeptes de philosophie, ils adorent la philosophie. Et ces deux tueurs se lancent aux trousses de Stella. Monsieur le curé, James Brown, se dit que c'est de sa faute et il prend la défense de Stella. Et tout ce petit monde est suivi par un journaliste originaire du Honduras qui aimerait avoir le prix Pulitzer. Alors il suit tout cela de très près.
C'est énorme.
Et ça donne des aventures très, très, très...
limite comique, non ?
Bah oui, il y a de Cardona, Joseph Cardona, c'est un écrivain qui a de l'humour. Il écrit des romans noirs. Et par contre, ouais, il y a un peu de dérision dans ses livres. Moi, je l'ai connu, Cardona, en lisant un livre qui s'appelle La soustraction des possibles, que je recommande à tout le monde. C'est un livre sur le système bancaire suisse et l'évasion fiscale après que François Mitterrand et le socialisme soient passés en France.
Oula, c'est un essai là pour le coup ?
Non, c'est un
carrément
roman,
un roman complètement, policier.
Un roman un peu zinzin aussi, un peu policier. Il y a des valises d'argent qui partent de la France pour aller en Suisse,
ouais.
qui sont commanditées par des gros banquiers suisses. Peu scrupuleux, et il arrive des aventures à tout ce petit monde. Et c'est très noir, hein, parce que Cardona, ça peut être un peu humour par moment, mais par contre, ça peut finir sur des choses assez, assez noires. Mais il y a une très belle galerie de personnages, et donc ça part de la Géorgie, ça va jusqu'à Las Vegas, ça traverse.
Ça traverse ce livre,
puis ça traverse plein d'États, là. Le Mississippi, ça arrive jusqu'à Las Vegas où il y aura le dénouement absolument incroyable. C'est un succès, il y a un gros suspense. C'est un bouquin, c'est digne de Tarantino ou des frères Coen.
C'est ce que j'allais dire, ça me faisait penser à ça.
Moi, c'est ça un peu.
Et est-ce que tu es OK pour nous lire la quatrième de couvre comme d'habitude, comme ça
résume assez bien. Elle n'est ni la plus belle ni la plus futée, Stella. Mais elle est loyale. Et surtout, c'est une sainte, une vraie, une qui fait des miracles. Il n'y a qu'à voir ceux qui ressortent de sa caravane. Les aveugles rendus à la vue, les paralytiques redressés pour de bon. Un don charnel de guérison qui fait trembler jusqu'au Vatican, où l'on préfère les saintes vierges, pas celles qui monnaient leur charme. Dépêchés en Amérique, deux tueurs à gages se lancent aux trousses de la prostituée, bien décidés à la jeter en martyr aux coyotes, quitte à se frotter à quelques anges gardiens, pas avares sur la multiplication des pains.
Et dis-moi, la musique de Dead Kennedys, c'est un petit peu bien vu avec le bouquin
ou
Vive à Las Vegas ?
C'est Vive à Las Vegas, ça fait penser en même temps à Las Vegas Parano, enfin à toutes ces choses-là. Ça peut être dans une BO de Tarantino aussi.
Once, you'll never be the same again. Got
Eh ben, ça fait du bien. On est content de démarrer l'année comme ça en parlant des livres avec Jono et Nina. Nina, nous allons t'entendre ici à Canal B. Le nombril de Vénus, c'est à ton tour.
Mais avant, je vais vous poser une question. À vous deux, c'est quoi les meilleurs livres selon vous?
Les meilleurs livres?
À une définition tac au tac.
Une définition tac au tac.
Un peu générique.
Il y a des livres qui font rêver, d'autres qui...
Moi, c'est des livres qui me font sentir quelque chose dans ma chair.
Ok. Eh ben moi, les livres que je préfère, c'est ceux qui me sont prêtés par des gens en qui j'ai confiance.
Oh,
et
les goûts
qui sont toujours très pile juste dans mes goûts. Et là, c'est ça. Donc, je rends hommage à la personne qui m'a prêté ce livre, qui s'appelle Casimir Fidèle. Ici, bienvenue tout au long du XVIIIe siècle en France, où l'on suit le parcours de ce prénommé Casimir Fidèle. Casimir Fidèle, il habite à Bordeaux et il devient maître traiteur, maître pâtissier. À l'époque, selon la terminologie, on est maître pâtissier, on a le droit de faire genre des pâtes. Et du coup, des tourtes salées, sucrées.
Wow.
Et du coup, on a le droit d'ouvrir sa propre affaire, son hôtel particulier, par exemple. Et donc, Casimir, il monte peu à peu son hôtel, l'hôtel de l'Empereur à Bordeaux, ce qui, à l'époque, revient un peu à gérer, en gros, un hôtel particulier pour gens très, très riches, en leur proposant différents services, chambres, cuisine, mais aussi coiffeur, poste, enfin voilà. Sa spécialité, à lui, c'est la cuisine, et c'est aussi pour ça qu'il est connu dans tout Bordeaux, parce qu'il organise de grandes fêtes et de grands banquets. Donc sa réputation commence à le précéder dans la ville. On connaît son hôtel qui est très beau, qui est rempli de tentures. Bref, on est au XVIIIe siècle, quoi, en France. Peu à peu, Casimir, il monte son empire. Il rachète un bout de l'hôtel voisin sur sa gauche. Il étend son premier étage un peu sur la droite. Il achète une maison dans un des derniers espaces verts de Bordeaux. Bref, il se met à l'abri, on va dire. On va dire ça comme ça. Pourtant, sa femme et lui, ils sont partis d'une situation plutôt très modeste comparée aux personnes qui reçoivent dans leur hôtel. Et surtout, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au début de cette histoire, au début de notre histoire, Casimir Fidèle, ce n'est pas un homme libre. En fait, au début de l'histoire, il est encore esclave.
Waouh !
En 1754, date à laquelle commence cette histoire, l'esclavage, il est bel et bien présent en France, notamment à Bordeaux. Et l'histoire, elle commence réellement lorsque Casimir, qui s'appelle à ce moment-là donc par un autre prénom, un prénom qui commence par E, mais qu'on ne connaîtra jamais dans ce livre, se fait kidnapper, se fait enlever dans le pays d'où il vient. Il se fait enlever aux alentours d'Arada, sur la côte de Guinée, donc aujourd'hui entre le Bénin et le Nigeria. Et ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que en fait, cette histoire, ce n'est pas un roman, c'est une histoire vraie. Donc entre un peu le carnet de thèse ou un récit de chercheuse, parfois ça a quelque chose quand même du roman. Mais en tout cas, tout ce que l'on lit est totalement vrai. L'autrice, Julie Duprat, elle nous raconte, en fait, elle refait le fil de l'histoire de Casimir grâce aux archives qu'elle a trouvées dans sa carrière de chercheuse. Elle est archiviste paléographe, elle est conservatrice à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Et donc voilà, elle retrace avec nous le fil de la vie de Casimir. Ce qui est assez fou dans sa démarche, c'est que là, ce que je vous lis, ça se lit vraiment bien, en fait. C'est pas une thèse.
Elle
l'a pas romancée.
Parce qu'en fait, parfois, on ne trouve pas toutes les informations, donc pour donner une suite quelconque.
Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est sa grande transparence et sa grande sincérité à cette autrice qui est du coup aussi chercheuse. Elle cherche, elle tâtonne avec nous, elle fait des suppositions. Parfois, elle nous dit qu'elle hésite, elle ne sait pas quel est le plus probable, mais elle nous explique que selon 1754, ce serait plutôt ça qui est le plus possible. Donc c'est assez intéressant parce qu'elle nous explique toutes ces hésitations. Et on est un peu plongé en fait dans sa quête, c'est ça.
Oui.
Et donc on explore avec elle, ce qui est aussi assez impressionnant, c'est que c'est hyper précis comme rendu. C'est-à-dire qu'elle est allée elle-même devant le bâtiment dont il est question, où Casimir a travaillé. Elle recherche les plans cadastraux de l'époque. Donc on est vraiment plongé dans le Bordeaux de 1754. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'évidemment, il y a tout son travail de chercheuse derrière. Donc elle, quand elle nous livre une phrase, c'est pas une phrase comme ça au hasard, c'est une phrase qui est remplie de 10 années de recherche en amont. Donc on a toute la véracité historique et aussi de ce qui se passe à Bordeaux à ce moment-là. Et puis, pour finir, ce qui est vraiment le plus intéressant et qui se passe au début du livre, c'est qu'elle tente quand même de nous faire voir l'expérience traumatique du petit garçon, donc au prénom qui commence par un E, qui est réduit en esclavage. Elle essaye de nous faire voir par ses propres yeux ce que ça a dû être, en fait, d'être un petit garçon kidnappé, puis ensuite de voir une première grande ville pour la première fois, de passer plusieurs dizaines de jours dans un bateau bondé et plein de maladies, de devoir faire la cuisine pour tous les blancs qui sont sur ce bateau-là, et puis au fur et à mesure de sa vie, de ce que ça a dû être d'être de devoir être servile par rapport à toutes ces personnes qui ont été ses maîtres, comme on le disait à l'époque, malgré le fait que l'un de ses maîtres a fini par le libérer, l'affranchir, et qui nous permet donc de voir sa vie qui a été une vie d'affranchi. Effectivement, le sous-titre de ce livre qui s'appelle Casimir Fidèle, c'est « Parcours d'un affranchi ». Aux éditions du CNRS, évidemment, puisque c'est de la recherche.
Bah ouais, c'est trop bien.
Ouais, c'est intéressant, ça a l'air bien. Ouais, ouais.
J'aime bien aussi quand, effectivement, des scientifiques comme ça nous racontent un peu leur cuisine interne, parce que ça nous permet de voir la partie de leur métier et donc la passion un peu que les anime.
Oui, finalement. C'est ça. C'est vraiment de la passion. Ah. Là, on la voit qui fait des suppositions vraiment et qui, parfois, pendant des années, bute sur quelque chose et qui, au détour d'une autre archive, par hasard, trouve la réponse. Et elle nous l'explique aussi un petit peu en prologue que ça devient un peu une quête personnelle, obsessionnelle quand même.
Oui.
Parce que ça a dû lui prendre une petite dizaine d'années. Et ça, c'est à côté de son travail de chercheuse, en fait. C'est, c'est plutôt une quête annexe. Donc, c'est vraiment aussi intéressant de ce point de vue-là, effectivement.
Voilà, et puis il y a le côté rigoureux de la recherche, mais il y a aussi ces impromptus, ces choses
Exactement.
Qui surgissent et qui peuvent être un peu, tu vois, un peu comme une intuition ou les planètes qui s'alignent, des choses comme ça. Et là, pour le coup, pas spécialement scientifique en soi,
non.
Mais c'est la vie, quoi.
Exactement.
La vie qui se déroule. Tu vas nous lire un extrait.
Oui, un extrait, du coup, pas drôle du tout, du début du livre où, justement, on parle de ce moment où le fameux E, qui deviendra après Casimir, se fait enlever. Il est impossible de savoir quel jour exactement l'enfant est vendu, s'il fait partie des esclaves qui ont attendu plusieurs semaines à bord du navire, ou s'il a été placé en détention dans le fort français, en attendant de monter sur le Saint-Julien. Le fort, plus qu'un bâtiment défensif, sert de fait surtout d'espace de stockage de biens et de personnes. Des longs baraquements conçus pour loger les esclaves et ranger les marchandises sont ainsi disposés dans la cour centrale tout autour de la chapelle. Avant de monter dans le navire, ils sont examinés par le chirurgien. Eux passent ainsi entre les mains de Lefort et Lassalle, qui vérifient qu'il n'est pas porteur de maladies vénériennes et lui font subir un examen approfondi du corps. L'enfant est ensuite soumis à une pratique douloureuse. Les chirurgiens le marquent au fer rouge sur le corps avec une lettre propre au Saint-Julien. Eux ferment les yeux, serrent les dents, la douleur lui vrille les côtes. Les chirurgiens, eux, ne scient pas, ont une seconde à peine d'hésitation quand ils saisissent l'enfant, car ils doivent réaliser l'opération près de 300 fois. Avec les autres esclaves, eux est ensuite amené sur la plage, encordé par le cou avec ceux de son âge. C'est la première fois qu'il voit la mer.
Oui. Alors, j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir, mais nous sommes trois ici à avoir choisi quand même de dire aujourd'hui sur des livres qui parlent des contraintes de corps et qui nous font voyager ailleurs de lieu où nous sommes actuellement. C'est quand même pas rien, ça, hein, de démarrer l'année comme ça, les gars.
Et aussi de personnes qui subissent qui sont marginalisées aussi par rapport à leur corps et la personne qu'ils sont.
Ouais. Oui, absolument. Ça en dit quelque chose de toi aussi, Jean, non ?
Oui, tout à fait. Puis ce que Nina a soulevé tout à l'heure, c'est important, c'est... Moi, je trouve quand on peut faire découvrir un livre à quelqu'un ou quand on nous fait découvrir
c'était magnifique.
Un livre, c'est des très, très bons moments. Ça.
Elle nous a bien eu. Ouais, c'était très beau. J'espère que la personne qui t'a donc mis ce livre entre les mains écoute cette émission et soit très ravie d'avoir été honorée ainsi par toi. Moi, je souhaiterais savoir cette histoire « eux » et pourquoi « eux ». Ça reste eux.
Ça reste eux parce qu'elle a pas l'info. Pour le coup, elle cherche, elle ne sait pas. Et c'est à partir du moment... Elle peut pas savoir.
C'est ça la fidélité scientifique.
Exactement.
C'est qu'elle n'a pas essayé de mettre pour nous arranger un peu la vie. Quoi.
Exactement.
C'est trop bien ça.
C'est la fin de l'émission. Le nombril de Vénus sur Canal B.
Eh ben moi, j'ai envie de vous dire qu'on a fait une très belle émission. Hein.
Bah oui, c'est
j'étais
bien
ravie
de
d'être
2026.
Avec vous. Ben oui, c'était super.
J'étais ici un moment.
Ah oui, mais pas de problème. On acquiesce. Eh bien, je vous souhaite de revenir vite.
Bonne journée, bon week-end.
Dans les ondes de Canal B. Merci beaucoup.
À bientôt.
Et merci à vous qui nous écoutez sur Canal B. Allez, bisous, bye. Et le palais du grand amour, rêver des amants de Vérone, au sommet du Fujiyama.
des